C'est croire, oser et agir. Croire, la foi, croire, oser faire les choses et agir. Il y a toujours la foi sans action, elle est morte. D'accord? Si on agit, mais s'il n'y a pas la foi, la même chose, ça ne marche pas. Alors, Sandy nous a encouragé ce matin. Prier pour tout ce qui se passe dans le monde, pour le monde. La Bible nous encourage, prier pour les autorités, etc., dans le monde entier, pour les autorités en Angleterre, en France, dans le monde entier. Hein. Et il y a des morts partout. Chaque matin, quand je me réveille, je m'intéresse un peu à ce qui se passe. Il y a des morts partout, il y a des bombes qui tombent sur des gens, sur des enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Vous entendez tout ça? Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et en plus, il y a la persécution pour les chrétiens. Donc, nous avons prié, elle était créative, c'est bien, parce que voilà, on oublie que pendant que nous sommes là, d'autres chrétiens souffrent, sont persécutés, il y a d'autres meurent. Et c'est difficile d'accepter tout ça. Puis, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est prier pour que Dieu puisse agir. Amen. Prier. Et prions pour toutes ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de choses instables. Quand on parle les uns avec les autres, même dans notre pays, souvent, on rencontre des gens qui nous parlent de chômage. Les gens qui sont licenciés. Les gens qui n'arrivent pas à trouver un travail. Vous voyez tellement de choses instables. On voit le trouble partout. Et puis voilà, je vous ai dit, il y a des guerres aussi. Il y a tellement de choses qui se passent. Mais l'Église a son rôle à jouer. L'Église, finalement, c'est qui? Ah ben, c'est vous et moi. Hein, souvent, on parle comme ça. L'Église est composée de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Si tu portes une étiquette en disant, tu te réclames protestant, orthodoxe ou catholique, ou je ne sais pas, réformé, mais si tu n'as jamais accepté Jésus, les titres, ça ne veut rien dire. L'étiquette, ça ne veut rien dire. Tout ce qui compte, c'est les dénominations, c'est secondaire. C'est des repères sur cette terre. Mais tout ce qui compte, c'est avoir Jésus dans ta vie. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, et si tu t'es soumis à ces recommandations, tu l'obéis, tu vis avec lui, ça marche. D'accord? Donc, vous voyez, l'Église, ce sont ces gens-là dans le monde entier qui prient, qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tous ceux qui sont anti-Jésus sont des antichrists. Voilà. Et l'Église, donc les chrétiens, ont quelque chose nous avons une responsabilité. Nous sommes appelés à être justement la lumière dans les ténèbres. Amen. Parce que toutes ces guerres, toutes ces mauvaises nouvelles, là où il n'y a pas Dieu, voilà, c'est symbolisé par les ténèbres. On voit rien. Tout est mauvais. Voilà. Mais nous, les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, je me répète, dans leur vie, nous sommes la lumière dans les ténèbres. Nous avons l'espoir, l'espérance. On a chanté, il y avait un beau chant qui parlait de l'espoir. L'espérance, ça nous propulse, ça nous conduit plus loin, c'est formidable. Alors, l'Église, donc nous les chrétiens, nous avons quelque chose à communiquer, justement, communiquer la vie là où il n'y a pas d'espoir, apporter la solution là où il y a désespoir. Amen. Nous avons une responsabilité, voilà, c'est tellement beau. Ce matin, je suis entré ici dans cette salle et je me suis dit, Seigneur, quel privilège Je rentre dans une salle. Il y a déjà quelques personnes. Il y a d'autres qui arrivent pendant que d'autres meurent. Pendant que d'autres n'ont pas cette liberté. Pendant que d'autres se cachent dans les caves, etc. Quand vous prenez, quand on pense à la Chine, un pays énorme, il y a tellement de chrétiens. Et puis, ils n'ont pas la liberté que toi et moi. Alors moi, j'ai dit merci Seigneur. Quel privilège. Amen. Quel privilège. Et c'est pourquoi ça nous mobilise d'autant plus de prier pour tous ceux qui n'ont pas le même privilège que toi et moi. Amen. C'est ça, hein? Donc, vous voyez, nous sommes là pour communiquer la vie là où il n'y a pas d'espoir, la solution là où il y a désespoir. Et voilà, vous allez voir dans une belle histoire, c'est un texte que nous avons lu dimanche dernier, mais vous vous souvenez, on a pas pu, j'ai pas, même pas prêché dimanche, on a juste lu un texte. Je vais prendre le même texte et de ce texte-là, on va retirer trois pensées. Donc, croire, oser et agir. Les Actes des Apôtres, chapitre 3, le 11, premier verset. Les Actes des Apôtres, chapitre 3, et le 11, premier verset. Fred, c'est toi qui lis aujourd'hui? C'était prévu ou non? Non? Bon, c'est pas grave.
À ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon.
C'est bon? Merci. Voilà. Belle histoire, hein? On est d'accord? Ça s'est passé pendant les actes, pendant pendant les temps d'église primitive, puisqu'on parle de Pierre, Jean, l'apôtre Pierre. Et là, vous voyez, donc, il est question de la porte qui s'appelle Belle, tout simplement, il s'appelait comme ça. Le temple, c'était un bâtiment, un temple qui était construit il y a à peu près 1000 ans, à peu près 1000 ans. Voilà, avant Jésus, bien sûr, avant Jésus-Christ, d'accord. Et ce temple-là, bon, il était détruit, reconstruit, etc., etc. Donc, le temple a été construit par Salomon. Salomon, c'était le roi d'Israël à l'époque, hein. Et le temple était construit pour que le peuple se réunisse pour louer, pour offrir des sacrifices à Dieu, etc. C'était différent de ce que nous faisons aujourd'hui, mais c'était aussi symbolique et prophétique pour ce que nous vivons actuellement. Donc, devant Pierre et Jean, donc vous avez compris, sont devant le temple. Il y avait là un boiteux, un malade, d'accord? Et voilà, dans le cœur de Pierre, c'était tout simplement apporter une solution à cet homme qui était boiteux, à cet homme qui était malade, à cet homme qui réclamait un peu d'argent. Donnez-moi un héros, c'était pas les héros à l'époque, mais donnez-moi une pièce, d'accord, parce qu'il était incapable de faire quoi que ce soit. Et le Le but de Pierre, c'était, voilà, j'aimerais lui apporter une solution. J'aimerais l'aider. J'aimerais en même temps mettre en pratique la parole de Dieu. Ça, hein? Pourquoi? Parce que Pierre était croyant. La première chose, il était apôtre, serviteur de Dieu, donc qui prédicateur, etc., et prophète, tout ce que vous voulez. Et cet homme, voilà, communiquait la vie là où il n'y en avait pas, communiquait la santé là où il n'y en avait pas. Imaginez-vous juste un instant. Voilà. Vous avez un homme boiteux devant vous, d'accord? Vous êtes là et vous dites, moi, je suis sauvé. Moi, je suis chrétien. Moi, je fais partie d'une église. Ça fait déjà 5 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et d'autres vont dire, ça fait déjà 30 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et d'autres vont dire, moi, je démarre ma vie spirituelle, je cherche, je découvre. Et voilà, vous connaissez les promesses de Dieu, d'accord? Vous savez que Dieu guérissait, que Dieu guérit, que Dieu guérira. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Amen. On découvre dans la parole de Dieu les promesses de Dieu, ce sont les promesses. Allez guérissez les malades, chassez les démons et ressuscitez les morts. C'est pas quelque chose qu'on a entendu en Amérique, en Afrique, mais c'est la parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu devant nous. Et vous avez un boiteux ou vous avez un autre malade, quelqu'un avec une autre maladie. Vous êtes là et vous vous dites, voilà, j'aimerais apporter la solution à cette personne-là. Parce que ça bouillonne en moi, parce que je crois, parce que la parole de Dieu est tellement claire, parce que je suis appelé pour ça, l'Église est appelée pour ça, pas seulement pour guérir, mais communiquer les bénédictions, communiquer. On est d'accord? Et regardez ce qui se passe dans la tête des pierres. Regardez, essayez de juste de réfléchir, d'imaginer ce qui se passe même pour nous lorsque nous avons un malade devant nous. Ah! Il y a des moments où on dit, on va prier. Il y a des moments où on dit, je vais aller vers lui. Je vais prendre sa main et je vais lui dire, lève-toi et marche. Ah, c'est beau tout ça. Mais c'est que la théorie. Vous comprenez? Et puis voilà, c'est un moment où je vais faire, je vais pas faire. Ça va se passer ou non? Vous savez, quand on est souvent dans les hôpitaux, hein, nous on a tellement visité des malades, etc. Et puis il y avait quelques fois, ça nous arrive que il y a des morts qui sont jeunes même. Alors moi j'arrive et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'aimerais ressusciter un mort, un jeune mort, ben, ça serait beau, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, la bataille, c'est là. Je vais prier, je vais pas prier. Ben, je vais prier, mais à condition qu'il n'y a personne. Comme ça, si ça se passe pas, au moins, vous comprenez. Alors, moi, j'ai prié pour les morts. Chaque fois, j'ai prié pour la résurrection. Pas pour lui. Parce qu'un jour, et j'ai pas encore vu, je suis sincère, mais au moins, chaque fois, j'ai osé prier parce que j'ai dit, si un jour le Seigneur me dira, « Ouais, mais Antoine, tu n'as jamais prié pour les morts. » Ah ben, je vais dire au Seigneur, ben, j'ai prié pour les morts, mais je n'ai pas vu les résurrections. Bon, la vie est encore devant moi, ça va se faire certainement. Hein. Vous croyez, non? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a la bataille ici. La bataille. La bataille. Vous savez, Quelquefois, on se retrouve entre nous, tout le monde, on a nos théories, nos raisonnements, notre école, et puis tout le monde, quelquefois par téléphone, j'ai reçu des coups de fil, et pendant un quart d'heure, on m'a prêché pendant un quart d'heure, on m'a même pas écouté, et puis à la fin, j'essaye de couper d'une certaine façon, gentille, pas méchante, parce que je me suis dit, bon. On sait tout, on discute, on parle. Mais ce qui est important, la foi, ensuite oser avoir les ailes et ensuite agir. Pierre croyait. On est d'accord? Il a osé. Peu importe ce qui se passe autour de lui, il s'approche de cet homme, il prend sa main. Et puis ensuite, l'action, c'est qu'il lui dit, lève-toi. Et ça marchait ou non? Ça marche. Donc, il y avait la foi en Dieu. Ensuite, Pierre, qui a osé. Et ensuite, il a agi. Et on voit la guérison. Amen. On voit un miracle. Et nous aspirons à toutes ces belles choses. Il y a des choses qui se passent. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Hein. Jésus, ça va mieux ou non? Fais un petit tour là. Toute seule, sans moi aujourd'hui. Hein. Bon, allez, je te laisse. Ça va mieux? Elle marche mieux. Hein, non? Vous vous souvenez? Il n'y a pas longtemps, elle a mis une demi-heure pour monter, une demi-heure, un peu plus loin là-bas, hein, plus loin. Pendant ce temps-là, ça me permet de raconter. Hein. Et elle avait plus, je ne sais pas, 15 minutes à Fred le mardi matin, 5 minutes peut-être pour monter l'escalier, comme ça. Et dimanche passé, on a proclamé la victoire. Et puis, mois de septembre, elle va prendre un travail. J'y crois. Parce qu'elle a perdu le travail. Elle était malade pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et puis, vous savez, elle est tellement bénie qu'on lui téléphone pour lui dire « Est-ce que vous pouvez vous présenter? On a besoin de vous. » Hein, c'est ça, hein, on t'a téléphoné. Hein. Pourquoi? Parce que tu as le sourire? Parce que tu as la foi? Elle a la foi. Et puis en plus, nous prions pour toi. C'est ça, l'Église prie pour toi. Alors nous voulons que, mois de septembre, elle puisse dire oui. Allô? Pour qu'elle puisse oui. Je crois, et j'ose de vous dire, croyez. Et puis, j'agis en disant, ça va marcher, nous croyons. Pour elle, mais beaucoup d'autres. Vous savez, une Allemande ou les chrétiens, quel privilège, quelle bénédiction, on est sauvé, c'est formidable. Mais sachez que la foi est un domaine capital dans notre vie. Croire, la foi veut dire aussi je crois, c'est-à-dire je reçois. C'est pas juste une idéologie. C'est pas juste une histoire, mais je crois, ça veut dire je reçois, je prends, je me saisis des promesses de Dieu. Amen. C'est ça la foi. Si cette foi est nourrie par la parole de Dieu, si cette foi est nourrie par la louange, par l'adoration, par la prière, etc., cette foi grandit, plus la foi est nourrie, grandit, elle est dynamique, elle reçoit les bénédictions. Christiane et moi, on a eu une mauvaise nouvelle il n'y a pas longtemps. Et moi, j'étais complètement assommé. Je ne vous cache pas, on est tous humains. Je ne voulais pas refuser, je ne voulais pas dire je ne suis pas d'accord, je ne voulais pas dire... Je n'accepte pas tout ce qui nous arrive pendant 40 ans dans l'œuvre de Dieu. J'ai toujours accepté et j'ai dit, Seigneur, tu contrôles tout. Mais malgré tout, quand vous recevrez une gifle, une claque, bah ça fait quoi? Bah ça fait mal, hein. Vous les hommes, n'essayez pas surtout faire ça avec vos dames, hein. D'accord? Vous, les hommes doivent payer un cadeau, une fatosante à sa femme, leur femme, une fleur, voilà, quelque chose, voilà, d'accord? Et les femmes doivent aimer leur mari, d'accord? Ça va. N'essayez pas tout ça, mais imaginez-vous que vous recevez une claque comme ça, ben ça fait mal. Et ça durait une semaine. Si vous m'avez téléphoné pendant une semaine, je ne savais pas parler. Mais pas du tout, hein? Pas du tout. J'ai pleuré tout le temps. Tout le temps, je regardais Christiane tout le temps. Et on a compris que on prie partout pour nous. On prie partout pour nous. Et on s'est réveillé un matin, on s'est regardé dans les yeux, c'est comme s'il n'y avait pas de problème. On s'est regardé dans les yeux et on a commencé à parler, on a commencé à construire. On a commencé à se préparer à certaines choses. On sentait qu'il y avait quelque chose qui nous manquait. Mon Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a les épreuves qui arrivent pour chacun d'entre nous. On est bien d'accord? Qui n'a pas d'épreuve? Nous passons par les épreuves. Mais en même temps, notre foi est testée. En passant par les épreuves, notre foi est testée. Et si nous avons la victoire sur les épreuves, ben notre foi devient plus en plus solide. Donc, voilà notre combat. Notre combat, là où nous avons besoin de la foi, c'est déjà dans notre vie spirituelle de tous les jours. Le combat commence là, chez moi. On va prendre le deuxième passage. Michael. Non, pas Michael, c'est Rebecca. Donc, c'était quoi? Jacques. L'épître de Jacques. Le premier chapitre, le verset 13 et 15, hein, c'est ça? Que personne. Lorsqu'il est tenté, la tentation. Vous savez ce que c'est la tentation? Il y a quelqu'un parmi vous ici qui était déjà tenté? Bon, je ne vous demande pas la main. Ben, moi, tout le temps, je ne vous cache pas. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Allô, c'est bon? Jamais Dieu, jamais. Dieu ne nous tente pas. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, non. Et il ne tente lui-même personne, ça va, vous croyez? Que Dieu ne nous tente pas? Les tentations, hein, pour des choses mauvaises. Il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Allô? Propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Alors, le péché, ça veut dire fauter, désobéir à Dieu. Ça veut dire ça. On est où là? Amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise. Convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Il n'y a pas Dieu dans tout ça, hein, on est d'accord? Il s'agit de cette tentation, notre propre convoitise, d'accord? Et les péchés étant consommés, produits, la mort spirituelle. Tu te déconnectes de Dieu. Allô? Il n'est pas question de punition parce que quelquefois les gens nous disent « Ah, j'espère, j'ai commis ça et ça, j'espère que Dieu ne me punira pas. » Mais Dieu ne nous punit pas, jamais! Dieu n'est pas gendarme. Dieu t'envoie que des solutions. Quand tu t'éloignes de lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il vient vers toi, il frappe à la porte de ton cœur, et quelqu'un qui te téléphone, tu rencontres quelqu'un pour te dire, attends, ne t'éloigne pas, ne te refroidis pas, reste enflammé, reste bouillant. Si tu n'es ni froid, ni chaud, mais tu es tiède, ah, je te rejetterai, je te vomirai de ma bouche. Donc, vous voyez que il y a la convoitise. Si tu peux encore le projeter ce verset, il est tellement profond. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante, on produit le péché, vous voyez, c'est progressif. On convoite quelque chose qui est contre Dieu. Ça veut dire, la convoitise, c'est ça. Je désire quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Faire, avoir, peu importe. Je désire d'avoir quelque chose, je désire de faire quelque chose, je désire d'agir dans un domaine qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est ça là quoi. Et puis voilà, si tu t'es soumis à cette convoitise, ben voilà, c'est le péché. Il n'y a pas Dieu dans tout ça. Hein? On s'éloigne de Dieu progressivement. Et pourtant, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. D'accord? Et puis voilà. Ensuite, le péché étant consommé produit la mort. Il s'agit de la mort spirituelle. Tu n'es plus, voilà, toi-même, c'est pas Dieu qui nous a rejetés, c'est nous pouvons nous-mêmes nous, voilà, décrocher de la grâce de Dieu. Si vous voulez, si on a un parapluie, hein, si on a un parapluie, par exemple, d'accord? Et il pleut. Et tu es en dessous d'un parapluie, on est d'accord? Alors le parapluie nous protège de quoi? De la pluie, d'accord? Dieu nous protège, la grâce de Dieu est au-dessus de nous. Mais si moi-même, parce que j'ai décidé de faire différemment, parce que je suis peut-être orgueilleux, parce que pour une raison ou pour une autre, je sors de parapluie. Le parapluie est à côté et moi je suis là. C'est la faute de parapluie ou c'est ma faute? Allô? Ah ben c'est moi. Et Dieu m'appelle pour me dire, oh, attention! Le danger revient. Pardon, demande-moi pardon. Et moi, je t'ai gracié, c'est pas grave. Vous voyez, avec Dieu, c'est comme ça marche comme ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui nous punit, c'est pas un gendarme. Donc, les tentations, nous les avons. Et puis voilà, les tentations, ben, ça nous conduit vers la convoitise. Et puis ensuite, voilà, vous avez compris que voilà, c'est tellement profond. Et nous voulons vivre, amen. Alors, nous avons accepté Jésus pour vivre éternellement. C'est beau ça, hein? Alors, ce qui est formidable, c'est que même quelquefois ici, on a difficulté de... Peut-être supporter les uns les autres parce qu'on est différents. Il y a la culture, il y a l'âge, il y a quoi encore? Il y a la formation, il y a beaucoup de choses qui jouent que nous sommes finalement différents. Et quelquefois, on a la difficulté de vivre ensemble, de s'accepter. Mais la bonne nouvelle, c'est que là-bas, il y aura la perfection. Facilement, vous allez pouvoir me supporter. Facilement. Et moi aussi. Dans l'éternité. C'est beau tout ça, hein? Ouh! Formidable. Formidable. Alors, deuxième texte, c'est le premier épître de Jean. Lettre, hein, lettre de Jean, chapitre 2, versets 16 et 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Regardez, il y a trois principes. Hein. La convoitise de la chair convoite. Un jeune homme qui convoite... Commettre un péché avec une jeune fille, c'est le, voilà. Et puis dans d'autres domaines, quelqu'un qui est tenté, convoité par la drogue, par l'alcool, par autre chose, vous comprenez? Voilà, donc ça c'est la convoitise de la chair. Et aussi la convoitise des yeux, je vois les choses et je les convoite. Même dans des choses pratiques, je vois une belle voiture chez quelqu'un. Ah ben ça peut être une convoitise matérielle. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas de finances. Ou c'est peut-être pas le moment. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est parce qu'il a, lui. Alors moi, je convoite. Matérialisme, de l'argent, etc. Donc, il est question de la convoitise des yeux, voilà, les yeux voient. Et puis ensuite, l'orgueil de la vie. Quand on voit les uns et les autres, quand on parle avec les uns et les autres, quand on voit les hommes politiques, quand on voit les riches, il y a des gens humbles, simples, mais il y a aussi beaucoup d'orgueil. Parce que j'ai un poste de responsabilité, et j'avais pas avant. Voilà, les gens deviennent orgueilleux. Les gens sont titrés, les gens reçoivent des postes importants. Et puis voilà, il y a l'orgueil qui s'installe, et puis aussi dans les domaines spirituels, j'en ai tellement vu dans le domaine spirituel des hommes de Dieu, par qui Dieu s'est servi. Il y avait des centaines, des milliers de personnes autour de certains ministères. C'était beau à voir. Et puis l'orgueil. C'est comme si ça, c'était à moi. On est juste les serviteurs de Dieu. Amen. Tout est à Dieu. Et la gloire appartient à Dieu. Alors l'orgueil, c'est quelque chose qui détruit l'œuvre de Dieu. On se détruit nous-mêmes. Donc, voilà, je reviens à l'histoire de Pierre. Ça n'a rien à voir, c'est deux histoires. Je vous raconte deux histoires différentes, mais je vous présente voilà un peu les exemples de la vie de tous les jours. Notre combat, c'est qu'il faut avoir la foi. Quand on est attaqué, vous comprenez? Quand on est attaqué, il faut avoir la foi. Il faut croire que Dieu est tout puissant, il est grand, d'accord? Ensuite, il faut oser, quelquefois, même dans un couple, se parler directement de les yeux en disant, tu sais, là, il y a eu une faiblesse. Là, j'étais un peu méchant avec toi. Là, j'ai mal fait. Vous comprenez? Il faut croire que Dieu est puissant, par la foi, oser, et ensuite agir pour détruire toutes les choses qui nous empêchent. Toutes les choses qui font tout pour que nous restions dans un état de péché parce que le péché produit la mort. Amen. Et Dieu nous a sauvés pour que nous puissions vivre vraiment éternellement. Je pense à un jeune couple qui on les a mariés, on les a conseillés, aidés, etc., etc. Et quelques mois plus tard, voilà, catastrophe dans le couple. Ils ne s'entendent pas. On va se séparer. On les a rencontrés une fois, deux fois, on les a confiés à d'autres jeunes couples. Aidez-le. Ça allait mieux. Et ensuite, on nous téléphone et mon ami, jeune homme, me dit: Antoine, bon, c'est la deuxième fois, mais là, c'est définitif. Je me sépare de. C'est une séparation. On se sépare. C'est définitif. On discute plus. C'est comme ça. Je te préviens parce que je te respecte. Alors, je lui ai dit: Oh, calme-toi un peu là, par téléphone, hein. Calme-toi et viens à la maison. Ouais, je sais ce que tu vas me dire. Oh, il est intelligent, hein. Il savait déjà ce que je vais lui dire. Et même moi, je ne savais pas. Bon, vous avez compris. Hein. 5 minutes après ça, il me dit: D'accord, j'accepte. On vient. Puis on est là à la maison. Puis on discute. Et puis après, Christiane, elle avait même. C'était même dur pour elle, parce qu'elle s'est investie avant beaucoup. D'entendre toutes ces accusations-là sur l'autre, elle ne supportait pas ça. Elle bricolait là à côté, mais elle écoutait. Mais voilà. Et puis tout à coup, j'ai senti qu'il y avait la présence de Dieu. Et 5 minutes après, ça a été réglé. Ça a été réglé. Je croyais. Vous comprenez ce que je veux dire? Je croyais qu'avec Dieu, nous pouvons réussir. J'ai osé leur dire: Venez! Et l'action, vous savez où c'était? Alors j'ai dit: Vous venez à la maison, vous allez rester 2 mois avec nous et on va faire quelque chose de vous. Et maintenant, quand je les vois avec un bébé souriant, quand on est chez eux, oh, deux amoureux, vous comprenez? C'est beau à voir. Et moi, j'ai les larmes aux yeux quand je vois ça, parce que je me suis dit: ben, l'Église, c'est ça. L'Église, c'est ça. C'est plus facile de juger, on est d'accord? Mais croire, oser, agir, dans notre vie, mais aussi pour les autres. Alors, mes amis, on prépare déjà. Voilà, moi j'ai compris ça avec tout ce qui s'est passé aussi chez nous, etc. J'ai dû changer, voilà, annuler tout ce que nous avons projeté, etc. Mais en même temps, le Seigneur m'a demandé de préparer pendant les vacances déjà le mois de septembre. Le mois de septembre, on vivra de belles choses. Dimanche prochain, on vous encourage d'être là à la source. Il y a Daniel Hermono, c'est tombé comme ça, ce qui nous a téléphoné. Pour ceux qui connaissent Daniel Hermono, l'ancien pasteur de Roubaix, vous souvenez, pour certains, un homme de Dieu remarquable, il est déjà assez âgé, mais il porte une bénédiction, il porte une onction. Et je lui ai demandé de venir dimanche prochain à Waterloo pour prier pour les malades, pour faire l'onction d'huile. C'est un homme simple, humble, mais un homme qui a tellement de résultats partout dans le monde entier. Il travaillait comme un apôtre à la fin. Et dimanche prochain, préparez déjà pendant cette semaine, le culte du dimanche prochain pour recevoir des changements. Regardez, Dieu est bon. Il y a Antonia qui vient me voir et me dit: Bon, voilà, j'ai fini mon stage, etc. Et vous savez, bon, je ne vous cache pas, Antonia est tellement gentille. C'est un beau gosse. Hein. Pour nous, c'est un bon gosse. Non, vous ne trouvez pas, non? Bon, vous êtes tous beaux. Hein. Bon, ça va, pas de jalousie. Hein. Mais bon, j'ai dit, Bah, on va prier pour tout ça parce que tu termines le stage, bah, il faut retourner dans le pays, on est bien d'accord. Pour elle, c'est ça. Hein. Pas de travail, chut, retourne dans son pays. Et moi, j'ai dit non, mais on aimerait garder Antonia avec nous. Hein. Qu'est-ce que vous pensez hein? Ah, gentille, souriante. Et puis oui, bah, on lui téléphone aussi. Pour... Bah, elle est la deuxième déjà. On lui téléphone. Pour le travail. Non, on lui propose un travail. Oui, deuxième poste, on t'a rappelé, hein, c'est ça. Voilà. Elle est sur deux postes. Avec une paye. Ah oui, c'est pas juste. Bonne paye. Parce que l'Église a besoin aussi d'être bénie. Non? On doit vivre. Quand je fais ça, quelle bénédiction! Le Seigneur est grand. Il est puissant. Et puis il y a d'autres bénédictions, d'autres bénédictions, d'autres bénédictions qui sont là. Voilà, on va se lever et puis on va penser maintenant à Brigitte. Brigitte, elle m'a dit à Christiane il y a 2 jours, voilà, j'ai vraiment besoin d'être ressuscitée. Il n'y a aucune chance pour elle, médicalement parlant. Je sais que quelqu'un va aller lui rendre visite. Cet après-midi, quand on la voit, elle est comme avant, parce qu'elle a le moral, elle a la foi. Mais elle a dit, j'ai vraiment besoin d'être ressuscité, parce que tous les résultats, tout est là, voilà. Puis on a prié ensemble avec elle, et le lendemain, elle nous a retéléphoné pour dire, ah, je suis bien. Mais nous ne voulons pas que ça soit juste « je suis bien un jour ou 2 jours ». Ce que nous voulons, c'est qu'elle soit guérie. Aucune chose pour la médecine, aucune chose. On lui a dit « on n'a pas besoin, on ne peut rien faire pour vous, rien, nulle part. Le cancer est partout. » On va continuer à prier pour elle. Je ne sais pas si elle va venir dimanche prochain, sinon on va aller encore. Tant que la vie est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut se battre pour elle. Amen. Il faut croire que nous avons Dieu Tout-Puissant. On va se lever ensemble. Alléluia. Et on va lever les mains vers le ciel et pour dire à Jésus, tu vois, je suis là, Seigneur, et j'ai décidé de frapper à la porte. Et si je vais frapper à la porte, tu vas ouvrir. Seigneur, nous pensons à nous. Nous ne voulons pas que la convoitise nous conduise vers les péchés vers la mort. Seigneur, mais ce matin, nous avons... prions en même temps la Sainte Cène et nous avons compris que nous sommes sauvés, nous sommes libérés. Tu nous as fait passer de la mort à la vie et nous voulons aussi communiquer comme Pierre a communiqué la vie, la santé, la guérison. Nous aussi, Seigneur, en tant qu'Église, nous voulons communiquer la vie autour de nous. Oh Jésus, merci. Alléluia. Alléluia.